Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons vous présenter quelques réflexions croisées au sujet de l'enseignement de la langue au secondaire 2. Je m'appelle Sylvie Jeanneret et j'enseigne la didactique du français langue maternelle dans le cadre de la formation à l'enseignement au secondaire.
Et je m'appelle Dorothée Ayer, je suis la collègue de Sylvie et j'enseigne la didactique du français langue étrangère. Il me semble important de signaler pour commencer une différence significative entre l'apprentissage du fonctionnement de la langue en français langue maternelle et en français langue étrangère. Comme l'explique la chercheuse Janine Courtillon, l'élève francophone parle déjà le français et normalement fait preuve d'une bonne à très bonne maîtrise de sa propre langue. Si on prend l'approche de la grammaire, par exemple, c'est donc pour les francophones une activité métalinguistique qui va les aider à comprendre le fonctionnement de la langue et à mieux appliquer certaines règles, notamment à l'écrit. On pense à la conjugaison, aux accords grammaticaux, mais également à des aspects de syntaxe. Pour les élèves allophones, l'enjeu est autre. Les élèves utilisent les éléments du fonctionnement de la langue essentiellement pour pouvoir communiquer. En français langue étrangère, on a tendance à faire une distinction entre le travail sur les compétences et les aspects liés à la langue, c'est-à-dire la grammaire, le lexique et la phonétique, bien que ces éléments-là soient indispensables à une bonne communication et qu'il est donc délicat de les traiter à part. On les mentionne du reste souvent d'activités de pré-communication ou de compétences de pré-communication. On parle aussi de compétences de communication et de compétences linguistiques. Donc toujours selon Janine Courtillon, l'élève qui communique en français langue étrangère a une connaissance implicite des règles, elles sont en quelque sorte intériorisées. Mais avant d'en arriver là, l'élève sera passé par des phases très explicites de la grammaire ou du vocabulaire. Idéalement, les points de grammaire ou le lexique sont abordés au moment où ils sont utiles à la réalisation d'une tâche. Plus concrètement, si l'acte de langage ou la tâche à accomplir consiste à décrire une personne, on en profite pour voir le lexique de la description physique et morale, l'accord des adjectifs et pourquoi pas les pronoms relatifs. Bref, tous ces outils qui vont permettre de décrire correctement et précisément une personne et donc de réaliser une compétence de communication. On se positionne en langue étrangère dans une approche par compétence. Donc, on va évaluer sa compétence à s'exprimer correctement en utilisant le bon temps au passé ou à saisir des subtilités dans un discours oral en contexte.
Tu as mentionné la situation de l'évaluation dans la langue au secondaire 1 dans le canton de Fribourg. Et cette approche de l'évaluation se retrouve également en langue 1, car on parle d'apprentissage de la langue de manière intégrée plutôt que décrochée. De fait, l'apprentissage des règles de l'accord des verbes, par exemple, ou l'apprentissage d'un lexique spécifique fera davantage sens s'il est en lien avec des activités de production ou de compréhension, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Même s'il est important d'apprendre les règles du fonctionnement de la langue, cet apprentissage va faire sens au moment où il est intégré à la compréhension d'un texte, par exemple. Et même si cet aspect n'est peut-être pas toujours bien renseigné ou documenté, l'enseignement de la langue qui se pratique au secondaire 2 se situe dans la continuité du secondaire 1 et de l'enseignement obligatoire. En effet, ce passage ne se fait pas de manière si évidente car on envisage l'apprentissage de la langue de manière relativement différente. L'apprentissage du fonctionnement de la langue occupe une grande partie des plans d'études du secondaire 1. Le plan d'études roman, donc le PER, y accorde une place importante dans le cursus des élèves, avec un travail approfondi sur la grammaire de la phrase, l'orthographe grammaticale et lexicale, mais aussi sur la conjugaison et le vocabulaire. Et on y aborde également des éléments de grammaire textuelle. Et je me permets de le rappeler, on tend à équilibrer l'enseignement de la langue entre des stratégies d'enseignement intégrées, par exemple par rapport à un texte qu'on lirait en classe ou que les élèves devraient écrire, et des stratégies d'enseignement décrochées, comme en proposant aux élèves des activités de drill, par exemple. Et je pense qu'on peut également souligner l'importance de la terminologie utilisée dans le cadre de l'école obligatoire et de la cohérence qui devrait se faire entre le secondaire 1 et le secondaire 2. Ces éléments permettent de penser l'apprentissage de la langue en termes de continuité plutôt que de rupture. Évidemment qu'au secondaire 2, comme plus tard d'ailleurs, on ne maîtrise jamais parfaitement l'usage de la langue et qu'il est nécessaire de la pratiquer quotidiennement, que ce soit dans les milieux professionnels, scolaires ou académiques, mais aussi dans notre vie sociale.
Prenons par exemple la place de la grammaire en classe de français langue étrangère, qui est assez emblématique. Il y a quelque chose de très rassurant dans l'enseignement-apprentissage de la grammaire en classe. Pour les enseignantes et les enseignants, cela permet de s'appuyer sur un objet qui est bien défini. Les grammaires à disposition en FLE offrent des explications bien ciblées et adaptées au public avec des exemples et des exercices d'application. Pour les élèves, l'objet aussi est bien défini. Le groupe sait ce qu'il doit faire. Ce n'est peut-être pas toujours intéressant, mais c'est un apprentissage relativement bien cadré pour des élèves du S2. À noter qu'on ne peut pas faire l'impasse en français, langue étrangère, sur cet aspect de la langue. Il existe une quantité énorme d'approches didactiques de la grammaire, mais elle n'est pas nécessairement toujours explicite. Nos collègues Bertocchini et Costanzo en proposent plus d'une dizaine, donc en grammaire descriptive, linguistique ou de production, pour n'en citer que quelques-unes. Toutefois, une approche qui semble faire l'unanimité actuellement est celle d'une grammaire contextualisée, qui renvoie à une grammaire du sens et s'éloigne d'une approche qui consisterait à compléter des blancs dans une phrase isolée.
En effet, au secondaire 2, on pense bien entendu à des activités que tu nommes contextualisées, qui renvoient à ce qu'on appelle des activités intégrées du côté francophone. Bien entendu que la maîtrise de la langue est une condition nécessaire à la réussite des productions phares du secondaire 2 comme la dissertation, le commentaire composé, mais aussi de l'écriture d'invention. On valorise certes la maîtrise de l'argumentation, oui, mais plus simplement, n'oublions pas que la maîtrise globale de la syntaxe et des différents codes de l'écrit s'avère importante pour les élèves. Et si l'on constate des lacunes ou des manques dans la maîtrise de la langue écrite, on peut développer plusieurs activités, dont certaines ont fait leurs preuves en français langue étrangère également. Qu'en est-il tout d'abord des exercices de drill? On peut d'emblée remarquer qu'avec la place prise par le numérique dans le monde scolaire, on a accès à de nombreux sites internet qui permettent aux élèves de s'exercer à améliorer leur maîtrise de la langue. Alors, ces sites proposent toutefois essentiellement des exercices de drill qui peuvent être très utiles pour l'apprentissage de la conjugaison, par exemple, mais qui n'apportent rien de nouveau par rapport au manuel qu'on pourrait utiliser en classe. La cosmétique volontiers ludique de ces sites peut toutefois motiver davantage les élèves à prendre du temps pour ces apprentissages. La difficulté, par la suite, évidemment, c'est d'intégrer ces connaissances à une tâche plus complexe, comme une production écrite ou une production orale.
Les exercices, de manière générale, font partie du processus d'apprentissage. Il reste néanmoins toujours délicat pour les apprenantes et les apprenants de passer de ces drills dont tu parlais, Sylvie, décontextualisés, à une production spontanée dans laquelle elles ou ils appliqueraient correctement les règles exercées.
Oui, tout à fait. Ensuite, on peut mentionner des activités plus complexes et aussi penser sur une plus longue durée qui semble efficace pour les élèves, aussi bien pour la maîtrise de la langue, mais aussi pour améliorer la confiance qu'elles ou ils peuvent développer. On peut encourager des activités d'écriture qui permettent de décloisonner l'apprentissage de la langue et d'ouvrir sur une pratique décomplexée de la langue écrite. Ces activités peuvent être des propositions d'écriture avec contraintes qui permettent d'explorer des formes poétiques, par exemple, mais aussi narratives ou descriptives. On peut conseiller l'usage d'un cahier d'écriture que les élèves ont avec eux ou alors d'avoir un dossier sur leur ordinateur et de garder ce cahier toute l'année et d'y écrire à certains moments. Alors, l'idée n'est pas tant de l'évaluer, mais de laisser les élèves y écrire et de proposer des moments de partage ou d'échange pour les volontaires et puis avec leurs camarades. Ces activités d'écriture peuvent également prendre place lors d'ateliers d'écriture qui poursuivent un objectif bien précis, que ce soit en lien avec le livre étudié en classe, avec un genre littéraire particulier, avec un point de narratologie spécifique, par exemple. L'important étant que les consignes se doivent d'être claires, que l'enseignante ou l'enseignant laisse les élèves écrire seuls et qu'on leur propose une production finale à mettre au propre. Cette production finale peut faire l'objet d'un petit concours, par exemple, ou alors peut être ajoutée à un dossier de différents textes. D'ailleurs, on peut profiter des ateliers d'écriture pour enrichir le vocabulaire des élèves, voire d'approfondir certaines notions comme on peut penser au champ lexical ou au champ sémantique.
En ce qui concerne le lexique, en FLE, on connaît les deux approches didactiques, donc l'approche sémasiologique, qui consiste à partir des mots, de leur forme, afin d'en déterminer le sens. Cela revient pour l'élève à se poser la question « quel sens a ce mot et comment puis-je l'insérer dans un contexte ?» L'autre approche, l'approche onomasiologique, consiste à enseigner le lexique à partir d'un sens, d'une idée, d'un concept. Donc l'élève s'interroge sur quels mots et expressions dont elle ou il a besoin pour dire telle ou telle chose. D'un point de vue didactique, il existe des étapes pour développer des stratégies de compétences lexicales, comme l'explique la chercheuse Christelle Cavala et ses collègues. La première étape est celle de l'exposition ou de la compréhension. Il s'agit de privilégier donc la compréhension dans un premier temps. Ensuite viennent des activités qui favorisent la production, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon à ce que l'élève puisse se représenter le lexique comme un ensemble d'éléments structurés. Et en dernier lieu, arrive la manipulation et la mémorisation, de sorte que les élèves renforcent cette compétence lexicale en saisissant certaines règles de formation des mots, par exemple. Et quelle et il soit capable de manipuler diverses structures linguistiques. Tout cela se fait bien sûr en contexte, en fonction de la thématique de la séquence et en gardant en tête qu'il s'agit bien de tâches de pré-communication. Est-ce qu'on parle de la prononciation? La prononciation est le parent pauvre des éléments du fonctionnement de la langue, en tout cas en langues étrangères. Cette activité est en effet souvent négligée par les enseignantes et les enseignants. Il est difficile d'expliquer pourquoi, mais la raison souvent donnée est que du moment qu'on se comprend, et donc on ne va pas passer trop de temps à faire travailler des élèves en classe. Du reste, beaucoup disent ne pas trop savoir comment s'y prendre en classe avec les élèves. C'est dommage, parce que ce travail peut apporter beaucoup de satisfaction aux élèves qui auront du plaisir à prononcer juste ou à jouer, à exagérer un accent, par exemple. Comme pour le lexique et la grammaire, il est important de contextualiser cet apprentissage et donc d'intervenir quand cela a du sens. Il y a beaucoup de chiffres dans le document qu'on lit en classe. Ok, on prend 2 minutes pour lire ensemble, on fait répéter, on découpe les mots en syllabes, en avant, en arrière, etc. Cela peut être très ludique, surtout si c'est spontané. Et ces petits exercices permettent de casser un petit peu le rythme d'un cours. C'est aussi l'occasion de faire de l'oral.
Et on peut ajouter qu'en langue une, la prononciation est plutôt remplacée par la diction comme critère à une activité de production orale. Et c'est d'ailleurs un critère pertinent lorsqu'on propose aux élèves de lire un texte à haute voix ou de prendre la parole dans le cadre d'un débat, par exemple. Pour finir cet échange, on peut discuter de la place accordée à la relecture. On encourage toujours les élèves à relire leur texte. Mais comment les élèves relisent-elles ou ils leur texte? Est-ce que c'est efficace? La relecture, c'est de fait une compétence très exigeante et de plus rapidement chronophage. Pour améliorer l'usage de cette compétence, on peut leur proposer de créer une grille de relecture, par exemple, qui leur permettrait de contrôler les éléments qui leur posent davantage de problèmes. La créer, puis l'utiliser dans le cadre de leur production écrite, peut favoriser également leur autonomie par rapport à l'écriture. Même si l'on doit rester prudent quant à leur efficacité, de nombreux élèves ont déjà une maîtrise suffisante de la langue et utiliser une grille ne leur permet pas forcément d'améliorer leur texte. Évidemment, toutes ces propositions ne garantissent pas une maîtrise totale de la langue, ce qui n'est pas le but, nous semble-t-il, mais favorisent une meilleure prise de conscience des phénomènes linguistiques. Et l'on espère également, peuvent permettre aux élèves d'être plus confiantes et confiants et de développer leur intérêt et leur plaisir à écrire et à lire. Un point que l'on peut rajouter, mais en guise d'ouverture plutôt que de propos conclusifs, tant le sujet est en discussion aujourd'hui, que faire avec l'intelligence artificielle et notamment l'usage du ChatGPT? On est vraiment partagé entre le fait que l'usage du ChatGPT notamment peut nous faire gagner du temps et nous proposer des réponses, mais on sait qu'il aura toujours une réponse et qu'il fait encore beaucoup d'erreurs. Les élèves doivent en être conscientes et conscient. Par ailleurs, utiliser l'intelligence artificielle sans la citer est considéré comme du plagiat et les élèves sont aussi responsables des erreurs que la machine ferait.
Et avant même les dernières formes de l'intelligence artificielle que tu mentionnes, Sylvie, nous avons tous à disposition des correcteurs orthographiques. Toutefois, les enseignantes et les enseignants, et nous comprises, soulevons que les élèves ne sont pas toujours aptes à les utiliser parce qu'elles ou ils doivent choisir parmi les propositions de correction, finalement comme un exercice en classe, mais que si la règle n'est pas maîtrisée, cet outil ne va pas les aider. Il est encore tôt pour parler des usages de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un apprentissage. Nous avons vraiment peu de recul, mais il est certain que c'est un outil puissant. Cependant, j'aime bien le comparer à la calculatrice qui permet de gagner du temps, mais qui ne permet pas l'économie des compétences de résolution de problèmes, par exemple.